VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, bonjour à tous. Il est 11h à Accra, au Ghana. Les funérailles nationales de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ont commencé ce matin dans son pays natal, le Ghana, où se sont rendus de nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier. La cérémonie sobre et religieuse s'est déroulée au Centre international de conférence d'Accra et marque la fin de 3 jours de deuil national, où Ghanéens et dignitaires ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan et se recueillir devant son cercueil. Ces funérailles, qui devraient durer toute la matinée, seront suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire de la capitale ghanéenne. Dans le nord de la Centrafrique, 6 ONG internationales actives à Kanga Bandoro ont suspendu hier pour toute la journée leurs activités. Objectif, protester contre les violences que les humanitaires subissent dans cette ville. Le point avec Abdourahmane Dia.
La suspension hier des activités humanitaires à Kanga Bandoro pour 24 heures était une journée d'indignation face à tout ce que les populations et les ONG subissent, d'après Baptiste Hankar, du Centre de coordination des ONG en Centrafrique. Il a ajouté qu'à Kanga Bandoro, 32 incidents contre les ONG ont été répertoriés cette année, dont 21 depuis le mois de juin. 7 travailleurs humanitaires ont été tués dans le pays depuis le début de l'année et 24 blessés, selon Safety Organization, qui recense les exactions contre les ONG dans le monde. OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU en Centrafrique, souligne que depuis le deuxième trimestre 2018, une hausse des vols, braquages et pillages a été observée dans plusieurs villes dont Bambari, Bria, Kanga Bandoro, Batangafo et Bossangoa.
L'armée nigériane a annoncé aujourd'hui avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays, la dernière date dans une série d'offensives de l'organisation djihadiste. Des dizaines de combattants ont attaqué en force mercredi soir la base de Damasak dans le nord de l'état de Borno, tentant de s'en emparer. L'attaque a été repoussée après plusieurs heures de combat et l'intervention d'un soutien aérien, ont indiqué ce matin des sources militaires dans la capitale du Borno, Maïdougouri. Le porte-parole de l'armée nigériane, le général de brigade Texas Sukou, a confirmé mercredi soir des affrontements acharnés entre soldats et terroristes. Le ministre italien des Affaires étrangères Enzo Moavero Milanesi a exprimé mercredi son désaccord sur la tenue d'élections en Libye le 10 décembre, une date défendue par la France. Monsieur Moavero Milanesi estime que cette date doit être reconsidérée en attendant que les conditions pour ces élections soient véritablement réunies, selon des propos rapportés par la presse italienne. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar ont finalement signé hier un accord de paix. C'était au cours d'un sommet régional à Addis Abeba. Le point avec Irénée Hermanongo.
Après avoir signé le document, les deux hommes se sont ensuite serrés la main devant les chefs d'État de l'Ouganda et du Soudan, en présence du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Aujourd'hui, nous espérons ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle opportunité de construire une paix durable au Soudan du Sud, a déclaré Festus Mogae, ancien président du Botswana, chargé du suivi du cessez-le-feu. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, David Schirrer, a fait part de son espoir de voir la fin du conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de personnes à fuir leur foyer. Un précédent accord a été signé en 2015, mais n'a jamais été respecté. Pour David Schirrer, cette toute dernière signature est un premier pas sur le chemin de la paix. Il estime qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
En Guinée, comme dans la plupart des pays de départ de migration clandestine vers l'Europe, la réinsertion de plusieurs jeunes rentrés dans leur pays d'origine se fait lentement, mais le processus de réinsertion dans la vie active se révèle plutôt compliqué. C'est ce que nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, qui est allé à leur rencontre.
La Guinée a été citée ces derniers temps parmi les pays de forte dynamique migratoire. Des jeunes candidats au départ ont tous le même rêve, sortir du pays pour trouver le bonheur. Mais après un échec, ces migrants guinéens gardent encore de tristes souvenirs de leurs mésaventures. Mariam Condé a connu le désert avant de se retrouver en Libye.
Arrivé à Agadez, on nous embarque dans un petit pick-up de 10 places. Nous étions au nombre de 33 personnes. Et arrivé à un certain niveau, le chauffeur nous dit de descendre dans le véhicule. Et on nous envoie dans une maison de prostitution. Nous, on est resté là-bas à 3 mois. Et ils nous ont obligés d'appeler nos parents ici pour qu'on nous envoie au moins 600 000 CFA. Alors que le pasteur ne nous a pas expliqué ça. Donc on nous a mal, on a eu des maltraitances, on nous frappe à chaque fois, on nous battait. Je suis obligée de faire tous les travaux forcés.
À chacun son histoire, celle de Mariam a commencé par la vente d'un véhicule qui appartenait à son oncle. Elle voulait devenir journaliste. Alors que Fodé Mohamed, lui, a utilisé l'argent de son activité de vente de crédit téléphonique.
L'arabe a pris le moteur, lui nous a avancé jusqu'à un certain niveau. Il nous a dit que là-bas maintenant, que les secouristes allaient venir pour nous secourir. Le moteur qui se trouvait sur le jeu GEC, il a enlevé ça, il a mis sur l'air lens. Il nous a laissé là-bas, on est resté là-bas jusqu'à le lendemain 16h. Les secouristes ne sont pas venus. Maintenant, la mer nous faisait que... Il fait revenir en arrière avec des pêcheurs égyptiens qui étaient à côté de nous. C'est qui nous ont secourus pour nous faire retourner en Libye.
Contrairement aux deux premiers, Kourma Kanti, lui, avait choisi le Maroc.
Bon, quand je suis rentré au Maroc, je ne connaissais personne. J'ai appelé la famille, je leur ai dit que ah, le type qui m'a fait voyager, son numéro ne passe pas. La famille aussi a tenté son numéro, ça ne passait pas. Bon, je suis resté là-bas 2 jours sur la route comme ça. Directement, ma grand-sœur a appelé l'intéressé. L'intéressé m'a hébergé durant une semaine. Quand j'étais là-bas, je souffrais, je ne gagnais pas du boulot. Ce n'était pas facile, la vie du Maroc.
Après 6 mois au royaume chérifien, il peine à trouver un emploi. Depuis 2017, l'Organisation internationale pour les migrations assiste au retour volontaire de plus de 900 jeunes Guinéens. Certains réussissent à lancer des projets de réinsertion économique. D'autres, comme Kourma Kanti, doivent encore attendre.
Au moment qu'on était là-bas, on nous avait dit quand vous rentrez, on allait vous donner 6 500 euros chacun. Quand nous sommes venus, ils nous ont dit bon, c'est pas l'argent cash qu'on va vous donner, on va vous faire monter, on va vous donner d'abord le projet de 45 jours. Après ce projet-là, vous allez se regrouper en 15 personnes, nous soumettre ici vos projets. Mais on a tout fait, on a fait ces projets-là, on les a soumis, les projets, mais jusqu'à présent, ça ne va pas.
L'Organisation internationale des migrations, l'UNICEF et le ministère guinéen de l'Action sociale viennent de signer un protocole d'entente qui doit permettre la protection des droits des enfants et adolescents migrants en Guinée. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Un migrant pour qui ça marche maintenant, Mamadou Gassama, le jeune migrant malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble parisien à la fin du mois de mai, a obtenu la nationalité française selon le décret de naturalisation paru au journal officiel mercredi. Mamadou Gassama, 22 ans, rebaptisé Spider-Man sur les réseaux sociaux, avait sauvé, vous en souvenez, un enfant suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble du nord de Paris le 26 mai, suscitant l'admiration générale en France et la fierté au Mali. Depuis début juillet, donc, Mamadou Gassama a entamé un contrat de service civique au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Dans la capitale américaine, il est 7h08. Israël a rouvert ce matin le seul point de passage pour les Palestiniens entre la bande de Gaza sous blocus et son territoire après une semaine de fermeture consécutive à des heures à proximité. Depuis la fermeture, donc, Israël ne laissait plus passer que les cas humanitaires comme des patients nécessitant des soins en Israël ou au-delà. La Russie continuera de renforcer ses forces armées, a promis aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine en assistant aux exercices militaires Vostok 2018, organisés depuis mardi en Extrême-Orient russe, les plus vastes manœuvres militaires de l'histoire de la Russie. Les exercices de ce jeudi ont simulé une attaque terrestre et aérienne impliquant pour cette seule journée près de 25 000 soldats, 7 000 véhicules et 250 avions et hélicoptères selon l'armée russe. Sur place, M. Poutine a salué la maîtrise de l'armée russe et sa capacité à faire face à de potentielles menaces. Le ministère chinois du commerce a salué aujourd'hui l'offre américaine de négociation pour tenter de sortir de la guerre commerciale qui oppose les deux premières économies mondiales. Le secrétaire américain au Trésor a proposé mercredi à Pékin de reprendre les discussions avant une nouvelle salve de droits de douane punitifs que l'administration Trump menace d'imposer sur 200 milliards de dollars d'exportation chinoise annuelle à destination des États-Unis. Et ici aux États-Unis, l'actrice de films pour adultes, Stormy Daniels, qui affirme avoir une liaison avec le président Donald Trump, en 2006, a annoncé mercredi la publication le mois prochain de ses mémoires, et ce sera le 2 octobre prochain. Jean-Roger Billon, prochain journal, dans 50 minutes exactement, avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.